Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 21 décembre, l'appel à la vigilance d'Emmanuel Macron. Il s'inquiète de ce qu'il appelle une mutation problématique du virus détecté de l'autre côté de la Manche. Les Anglais sont mis en quarantaine par les autres pays. Nous verrons quelles conséquences et ce que l'Europe peut décider dans les jours qui viennent. Quant à cette mutation, eh bien, nous ferons le point avec l'invité d'RTL Midi, Étienne Simon Laurière, chercheur à l'Institut Pasteur. Le parquet de Paris ouvre une enquête après les tweets antisémites qui ont inondé les réseaux sociaux contre Miss Provence samedi soir. Enquête pour injures racistes et provocations à la haine raciale. Dans RTL Midi aussi, Benoît Payan, nouveau maire de Marseille. Le socialiste a été élu ce matin en conseil municipal. La droite a joué la politique de la chaise vide. Et puis nous saluerons tout au long de la semaine de belles initiatives pour aider les autres. Aujourd'hui, nous serons avec la créatrice des boîtes de chaussures de Noël remplies de biens indispensables et de beaucoup d'amour. La météo, bonjour Nadia Neffer.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
On entre dans l'hiver puisque c'est aujourd'hui officiellement, mais tout absolument. En douceur.
Absolument, douceur remarquable. Pour la saison, 8 à Aurillac, 11 à Paris, 14 à Cherbourg, 15 à Tarbes, 18 à Bastia. La perturbation d'aujourd'hui balayera tout le pays avec du vent sur les côtes atlantiques et près de la Manche, jusqu'à 80 km/h et jusqu'à 60 km/h dans les terres. De la pluie localement soutenue des Pyrénées à la frontière belge, à l'arrière des Landes à la Normandie, les pluies seront faibles et intermittentes. À l'avant, du Languedoc à l'Alsace, les passages nuageux seront nombreux, donnant quelques ondées. Seul le Pays basque, la Côte d'Azur et la Corse pourront espérer un temps sec avec de timides éclaircies.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la mutation du virus. Êtes-vous inquiet, tout simplement? Eh bien, vous êtes 58% à dire oui, à 35% de non. On attend vos témoignages. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Je ne suis pas étonné que les gens soient inquiets. Ils le sont depuis le début de l'épidémie. Mais c'est un sujet qui va nous intéresser fortement. Est-ce que la France doit se barricader? Est-ce qu'il faut reconfiner la France après Noël? Ce serait également une interrogation que nous aurons. Comment expliquez-vous ce climat de haine en France? Et vous avez évoqué les messages antisémites sur Twitter qui ont visé la première dauphine de l'élection de Miss France 2021. Et puis, faut-il rouvrir les cinémas et les théâtres? Et derrière cette question, comment faites-vous sans cinéma et sans théâtre? Est-ce que ça vous manque? À tout à l'heure.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Drôle d'anniversaire. C'est un chef de l'État au trait tiré, le visage caché derrière un masque, qui a présidé le Conseil des ministres en visioconférence ce matin. Emmanuel Macron, qui souffre toujours du Covid, a 43 ans tout juste aujourd'hui et il est toujours à l'isolement à la lanterne. Il a mis en garde contre la mutation du virus enregistrée en Angleterre. Tendez bien l'oreille, le son est un peu caverneux.
Les derniers jours, les dernières heures, dirais-je même, ont été marquées par l'actualité du virus de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Deux situations qui, bien identifiées, semblent avoir notifié donc une mutation problématique du virus avec une forme beaucoup plus agressive. Tout ça montre la complexité de ce virus, son agressivité, oserais-je dire son inventivité et l'humilité qu'il nous faut toujours avoir.
Et Emmanuel Macron en a profité pour lancer un appel à la vigilance. En attendant, l'Angleterre est plus que jamais une île et elle se retrouve isolée, frontières fermées. Le reconfinement à la hâte fait chuter la bourse de Londres et la livre sterling. Et c'est l'approvisionnement du pays en pleine période de Noël qui se retrouve bloqué, Bénédicte Tassin.
Ah oui, la chaîne d'approvisionnement est rompue parce que même si seules les liaisons de la Grande-Bretagne en direction du continent sont suspendues jusqu'à au moins demain soir minuit, eh bien les transporteurs routiers ne se risquent pas à traverser la Manche pour se retrouver coincés là-bas. On sait que les ministres des Transports français et britanniques se sont parlé à propos du trafic transmanche et on attend un plan des décisions du Premier ministre britannique Boris Johnson. Ce dernier préside en ce moment une réunion de crise pour éviter les pénuries alimentaires. Son pays importe beaucoup de produits frais. Encore ce matin, on apprend que Hong Kong, mais aussi le Danemark, la Norvège suspendent à leur tour les vols qui proviennent de Grande-Bretagne. Même la République d'Irlande a fermé sa frontière avec son voisin.
Bon, alors c'est une mesure prise pour 48 heures, mais c'est l'Europe qui va décider pour la suite.
Oui, les ambassadeurs de l'Union européenne se réunissent aussi en urgence à la demande de l'Espagne, notamment qui réclame une réaction coordonnée des 27. Donc, sans surprise, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui devrait couper le lien avec la Grande-Bretagne, le temps de préparer un protocole sanitaire. Les tests PCR devraient notamment être généralisés pour ceux qui veulent sortir de Grande-Bretagne. Sachez quand même que 10 personnes en provenance de Grande-Bretagne et ayant atterri hier soir en Allemagne ont été été testée positive.
Bénédicte Tassard, il n'y a plus ni train, ni ferry, ni avion qui permettent de quitter l'Angleterre vers l'Hexagone. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL et vous avez recueilli des témoignages de Français qui se retrouvent coincés.
Oui, Léna, 21 ans, devait repartir dans l'Eurostar de 9h ce matin. Elle vient de finir un stage de 4 mois à Londres et se retrouve sans logement puisqu'elle doit rendre ses clés aujourd'hui.
J'avoue que c'est une sensation un peu bizarre parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'être bloquée dans un pays étranger et de ne pas pouvoir rentrer dans mon pays d'origine. Donc c'est très stressant, je vous avoue. Et c'est un peu énervant aussi parce que la France n'a jamais mis en place de quarantaine, entre guillemets, en France pour les voyageurs qui venaient du Royaume-Uni. Et on se prend ça un peu dans les dents, si je peux dire, du jour au lendemain, qu'on ne peut même pas rentrer à la maison. C'est compliqué.
Léna a prévu de faire un test PCR dans la journée au cas où la situation ne se débloque. Jeff, lui, hésite. Il devait prendre le ferry le 23. Mais même son travail est touché par la fermeture des frontières au transport commercial.
Oui, donc je travaille pour une grande entreprise automobile anglaise. Et effectivement, c'est sûr que cette décision va nous impacter, puisqu'on envoie des pièces détachées, des véhicules dans d'autres pays européens.
Entre les frontières fermées et la perspective d'un Brexit dur, c'est une fin d'année très stressante pour Jeff et beaucoup de Français au Royaume-Uni.
Marie Billon à Londres pour RTL. Alors, pour y voir plus clair, nous sommes en ligne avec Étienne Simon-Laurière, chercheur à l'Institut Pasteur. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron, ce matin, en Conseil des ministres, en visioconférence, évoquait une mutation problématique du virus. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il s'agit en fait d'une série de mutations, puisque ce nouveau variant qui circule en Angleterre porte une série de mutations dont certaines posent des questions, hypothétiquement, sur la transmissibilité.
C'est-à-dire ?
Il y a une mutation qui est dans la zone qui se lie au récepteur, donc qui permet au virus d'entrer dans nos cellules et qui pourrait le rendre légèrement plus transmissible.
Légèrement ou beaucoup ? Parce que hier, on entendait des chiffres de l'ordre de 70% venus d'Angleterre.
Aujourd'hui, il est trop tôt pour vraiment fixer des chiffres et pour vraiment s'assurer de ça. Et des tests sont en cours et il faut qu'on attende ces tests-là. Mais c'est suffisamment inquiétant pour qu'on fasse ces tests.
Bon. Cette souche, elle a été découverte en septembre au Royaume-Uni. Vous, à l'Institut Pasteur, vous travaillez dessus déjà ?
Alors, le Centre national de référence, oui, surveille. Pour l'instant, on n'a pas encore détecté ce variant en France, mais on n'a pas la même réactivité que le grand programme qui est national pour la Grande-Bretagne. Et donc, il est possible qu'on se rende compte avec un petit décalage que ce variant pourrait ou non commencer à circuler en France.
Justement, ce virus, donc plus contagieux, il circule déjà aussi au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas. Donc vous ne l'avez pas détecté, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas déjà arrivé en France.
Exactement, on ne sait pas encore, on n'a pas encore cette information.
Et vous pensez l'avoir quand ?
Tout dépendra de sa vitesse de propagation. S'il se diffuse beaucoup comme en Angleterre, on le verra rapidement. S'il reste à bas bruit, ça prendra plus de temps.
Quand les Anglais disent que la situation est hors de contrôle, vous l'interprétez comment, vous ? Ils disent que ce virus est hors de contrôle. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ils ont simplement noté qu'il y a une très très forte circulation du virus. Mais là, ça devient aussi des choses qui sont plus épidémiologiques et des comportements qui nécessiteraient peut-être des mesures plus sévères.
Bon, est-ce que, d'après ce que vous connaissez de ce virus, les nouveaux vaccins restent adaptés, oui ou non ? Parce qu'évidemment, c'est la question que tout le monde se pose là aujourd'hui.
Alors là aussi, c'est quelque chose qui est en cours d'étude. On va faire des tests dans ce sens. Pour l'instant, on est plutôt optimiste, puisque les approches vaccinales vont nous donner des anticorps contre l'ensemble de la protéine de la spike. Et ce n'est pas parce qu'il y a un ou deux petits changements localisés qu'on peut craindre que tout le reste soit affecté. Et donc, on est optimiste que les vaccins vont toujours fonctionner.
Bon, de manière générale, un virus, il mute tout le temps. Hein. C'est pas,
absolument.
C'est la pas
façon
nouveau.
Absolument, dont il se réplique et il circule.
Bon, donc là, on sait qu'il est plus contagieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est plus virulent ?
Absolument pas. Il n'y a aucune indication que le virus change en termes de symptomatologie. Et on attend une confirmation si effectivement il est plus transmissible. On a l'impression, mais ça pourrait être aussi le hasard ou simplement des événements de super spreader ou de super diffuseur du virus qui, par hasard, ont contribué à sa diffusion.
S'il est vraiment beaucoup plus contagieux, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait envisager un nouveau confinement assez rapidement chez nous ?
Ça, je ne suis pas à même de vous répondre.
Oui, ça, je sais, c'est une décision politique. Vous êtes chercheur.
Absolument.
À l'Institut Pasteur. Mais quand même, ça veut dire parce que là, on voit bien qu'il y a une espèce de lockdown vis-à-vis du Royaume-Uni. Ça veut dire que nous aussi, il faudrait qu'on s'applique ce genre de restrictions aussi ?
Dans tous les cas, on peut craindre qu'avec les fêtes et les relâchements des gestes barrières, il pourrait y avoir une augmentation de la circulation du virus, qui pourrait amener à des décisions évidemment dans ce sens.
D'où l'appel à la vigilance du président de la République. Merci beaucoup, merci pour ce décryptage, Étienne Simon Laurière, chercheur à l'Institut Pasteur. On fait une pause dans un instant, il y aura des poursuites contre ceux qui ont écrit des tweets antisémites contre Miss Provence samedi soir.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Après les tweets antisémites contre Miss Provence, April Benayoum, samedi soir, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale. Ce matin encore sur RTL, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dénoncé, je cite, une contre-soirée abjecte sur les réseaux sociaux, ajoutant, j'espère que ces personnes vont découvrir que l'anonymat peut être gelé. Alors oui, Anne Le Hénaff, l'anonymat peut être gelé, mais ça va prendre du temps.
Oui, c'est un travail de fourmi qui commence. L'enquête a été confiée à la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, qui va donc s'attacher à partir de maintenant à retrouver ces tweets antisémites et à tenter d'identifier les auteurs, par exemple par leur adresse IP, le code en quelque sorte de leur ordinateur. Évidemment, c'est long et il y en a potentiellement beaucoup. La LICRA donne rendez-vous devant la justice aux tweetos qui ont transformé, je cite, le réseau en cloaque antisémite. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme a commencé à étudier ce qui s'est passé samedi soir. Il y a eu au moins 40 000 tweets publiés avec les hashtags, les mots-clés Miss France et Israël, sans qu'il soit possible encore pour le moment de trier entre les messages antisémites et à l'inverse, les messages de soutien. Depuis, beaucoup des auteurs de ces tweets ont supprimé les fameux messages ou fermé leur compte en espérant échapper à la justice.
Anne Le Hénaff, la ministre de la Ville, Nadia Haï, a appelé April Benayoum ce matin pour lui témoigner de son soutien et de sa détermination à lutter sans relâche contre l'antisémitisme. Elle lui a aussi avoué qu'elle était sa candidate préférée. On rappelle que c'est Miss Normandie qui a remporté le concours de beauté samedi. Toujours l'inquiétude à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, où une jeune mère de famille, Delphine Jubilard, est toujours portée disparue. D'après son mari, elle a quitté le domicile familial dans la nuit de mardi à mercredi. Au cinquième jour de recherche, le dispositif a été allégé. Une vingtaine de militaires sont mobilisés, nous dit notre correspondant Patrick Hisson. Une cartographie des dealers. Le ministère de l'Intérieur dresse une carte de France inédite dans le Parisien aujourd'hui en France, avec près de 4000 points de deal de drogue. La Guadeloupe est en tête devant la Seine-Saint-Denis et le Vaucluse. Et il veut, le ministre, s'attaquer à chacun d'entre eux. De quelle manière, Alice Moreno?
Eh bien, la première étape, c'est ce fameux recensement. Près de 4000 points de deal identifiés. Cette liste n'est pas exhaustive. Les lieux de trafic qui retiennent l'attention de l'intérieur présentent des caractéristiques précises. Il faut que les dealers se soient appropriés le territoire, un territoire désigné, un immeuble, une rue, un quartier. Ce recensement sera une base de travail, objectif de Beauvau désormais. Publier chaque mois le nombre de points de deal démantelés. Dans les rangs de la police, certains redoutent un retour de la politique du chiffre, mais dans l'entourage du ministre, on promet que ce sera tout l'inverse, que le but n'est pas d'interpeller un petit trafiquant isolé, mais bien de s'attaquer à tous les maillons du trafic, du revendeur à la tête de réseau, et surtout d'empêcher que ces points de deal ne se reconstituent quelques dizaines de mètres plus loin après une intervention de police. Voilà pour le vœu pieux, mais la méthode, elle, demeure encore bien floue. Gérald Darmanin promet la création d'une plateforme en ligne. Les citoyens seront invités à signaler les nouveaux points de deal ou les déménagements de dealers, des alertes qui devront ensuite être vérifiés par les enquêteurs.
Alice Moreno, à 42 ans, il est devenu le plus jeune maire de Marseille. Le socialiste Benoît Payan a obtenu la majorité ce matin lors du conseil municipal. Et Michel Rubirola, démissionnaire, prend donc le poste qu'il occupait jusque-là, celui de premier adjoint. Mais la droite a claqué la porte de l'hémicycle et a même refusé de participer au scrutin, Hugo Hamelin.
C'est ça, un quatrième et dernier tour des élections municipales à Marseille qui s'est ouvert avec une citation de l'art de la guerre. Voilà, pour vous situer un petit peu l'ambiance, même si les élus de droite ont finalement rapidement abandonné le combat, laissant Guy Tessier, un ami de Jean-Claude Godin et doyen des conseillers, présider ce switch de maire et de premier adjoint.
J'y vois comme beaucoup une forme de déni de démocratie, vous le dis-je, et abracadabra, vous avez voté Rubola et Vlan, vous avez Payan.
Le vote s'est ensuite déroulé sans accroc.
Monsieur Payan est élu au premier tour à l'unanimité des suffrages exprimés.
Longue accolade au moment des résultats entre Michel Rubirola et Benoît Payan. C'est d'ailleurs elle qui lui a remis son écharpe tricolore autour du cou. Un nouveau maire de Marseille, socialiste depuis toujours, est décrié par beaucoup comme étant un professionnel de la politique.
On dit parfois de moi que je suis surtout un professionnel de la politique. Cet engagement, je l'assume et je le revendique. J'ai fait le choix, à 20 ans, de devenir un militant de gauche. J'ai consacré ma vie au combat pour ce qui est juste et à la défense de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, pas de place dans l'histoire.
Maintenant, place à l'action. École et mal logement sont les priorités de ce nouveau maire, comme c'était le cas de la précédente d'ailleurs.
Hugo Hamelin en direct de Marseille. Dans un instant, on prend soin de nos animaux de compagnie.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
C'est une aventure qui commence comme un joli cadeau de Noël et qui finit parfois au cœur de l'été sur une aire d'autoroute. La France est le pays d'Europe qui compte le plus d'abandons de nos animaux de compagnie, 100 000. Et pour lutter contre ce fléau, le ministère de l'Agriculture lance un plan pour mieux sensibiliser les vendeurs et les acheteurs, Sophie Jousselin.
Oui, d'abord en rendant obligatoire lors de l'achat la signature d'un certificat de sensibilisation. Il vise à faire prendre conscience qu'adopter un animal, ce sont des frais quotidiens, des obligations de soins, d'identification. Le plan prévoit aussi une charte pour les ventes d'animaux sur Internet. Le Bon Coin la signera. Le site s'engage ainsi à consacrer une catégorie spéciale aux animaux. On ne pourra plus voir un chiot en vente dans la section jouets, par exemple. Les annonces devront impérativement indiquer l'âge de l'animal qui ne peut pas avoir moins de 8 semaines et qui doit être tatoué ou pucé. Les annonces seront toutes assorties de messages de prévention pour éviter les erreurs d'aiguillage lors de l'achat. Jacques Guérin est le président de l'Ordre national des vétérinaires qui participe à l'élaboration de cette charte.
L'exemple type, c'est si vous adoptez un labrador qui fait 40-45 kilos et que vous le mettez dans un appartement de 40 mètres carrés, ben il ne faudra pas s'étonner que l'appartement risque d'être ravagé par cet animal qui, à un moment donné, a besoin d'exercice et de se défenser.
Ce plan prévoit aussi une aide de 20 millions d'euros pour aider les refuges et les associations qui recueillent de plus en plus d'animaux abandonnés.
Voilà, sensibiliser donc et aussi sévir. Merci Sophie. Toute la semaine dans RTL Midi, nous allons mettre en valeur de belles initiatives solidaires à quelques jours de Noël. Et aujourd'hui, des boîtes de chaussures données aux sans-abri et aux plus nécessiteux. Nous sommes avec celle qui a lancé l'opération avec un énorme succès. Bonjour Mélanie Dulise.
Bonjour.
Vous habitez à Pontarlier, dans le Doubs, et vous avez repris cette idée venue du Canada. En quoi ça consiste ?
Alors, le but, c'était de mettre un truc chaud, c'est-à-dire une écharpe, un bonnet, des gants, un truc bon, parce que c'est Noël quand même, donc des chocolats, ça peut être aussi, on a vu passer du foie gras ou des choses comme ça, un loisir, donc un livre, un jeu de cartes, un sudoku, comme vous voulez, et puis un produit d'hygiène. Ça, c'est essentiel. Et enfin, un mot doux, c'est-à-dire une carte pour Noël, un dessin d'enfant, quelques mots pour soutenir les gens qui sont les plus démunis.
Et qui les collecte ?
Alors, à la base, donc moi, vous l'avez dit, je suis à Pontarlier, donc en Franche-Comté, j'ai un petit peu géré tout ça. Le fait est que c'est parti dans toute la France, donc plein de gens se sont mobilisés pour les collecter, que ce soit des particuliers ou des boutiques, et pour les remettre ensuite à des associations de terrain.
Donc là, vous dites c'est parti dans toute la France. En fait, là, vous êtes en train de faire le compte de toutes ces boîtes de chaussures que vous avez collectées. Il y en a combien ? Parce que je crois que le chiffre est assez vertigineux quand même.
Alors, ce matin, on était à plus de 145 000 boîtes sur toute la France. Et le décompte n'est pas terminé, parce que il y a des gens et des régions qui ont voulu faire durer en fait la collecte. Donc, je pense qu'on saura vraiment au niveau de Noël, quoi. Au 24-25 décembre, on aura le chiffre exact.
Ça, ce sont des boîtes qui vont être distribuées le 24 décembre à ceux qui sont dans la rue ?
C'est plus large que ça. Alors, c'est pour les sans-abri, effectivement, de base. Le but, c'était de dire, eh bien, le sans-abrisme, c'est pas la seule précarité qui existe. Aujourd'hui, compte tenu de la crise sanitaire, on a une précarité qui est grandissante. Et la précarité, elle peut quand même avoir parfois un toit. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, le but, c'est d'aller vers toutes les personnes qui sont en précarité financière ou psychique, ou le grand isolement.
Et vous, Mélanie Dulise, dans la vie, vous faites quoi ? Vous êtes en rapport avec ces associations-là ou pas ?
Alors oui, je suis en rapport. Je suis directrice d'un accueil de jour pour sans-abri à Pontarlier. Toute la journée, voilà, on côtoie cette précarité. Donc, à un moment donné, on a envie de faire plus et on a envie aussi d'être acteur d'un changement.
Mélanie, j'imagine que vous aussi, vous en avez fait une boîte de chaussures. Qu'est-ce que vous avez mis dedans ?
Oui, alors j'en ai pas fait qu'une. J'en ai pas fait qu'une. Mais effectivement, alors moi j'ai souvent mis des chaussettes parce que notamment pour les hommes, les chaussettes dans la rue, ça manque cruellement. J'ai mis souvent des calepins et des stylos parce que on en a beaucoup qui aiment écrire. Voilà, même si ça correspond à leur façon de s'exprimer et que c'est pas forcément du Shakespeare, ben ils aiment écrire et c'est très bon pour eux. J'ai mis aussi des jeux de cartes pour qu'ils puissent s'amuser un petit peu. J'ai mis beaucoup de chocolat parce que ça fait du bien toujours au moral, le chocolat. Et puis j'ai mis forcément des gels douche et des savons parce que l'hygiène dans la rue c'est quelque chose de compliqué, et même quand on est en appartement mais qu'on est en situation de précarité, c'est quelque chose qui coûte cher. Et puis après, bah, j'ai écrit des petites cartes avec un petit mot sympa et réconfortant pour que ça aille bien.
En fait, c'est surtout un peu d'amour.
C'est ça.
Merci beaucoup Mélanie pour cette belle attention. Merci
à vous.
Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez donc dialoguer comme d'habitude au 32-10 dans 5 minutes. Pascal.
J'ai écouté Anne Le Hénaff avec intérêt, parce qu'on a tous été choqués par ce qui s'est passé ce week-end. Il y a les déclarations d'intention des ministres, Gérald Darmanin, qui condamne cela, et puis on attend maintenant ce qui
on
va se passer.
On parle des tweets antisémites. Hein.
C'est pas simple, manifestement, c'est compliqué, les adresses IP, etc. Mais on attend quand même que l'État soit fort, pour le coup, et que l'État poursuive celles et ceux qui ont posté des tweets antisémites. C'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose d'important. Autrement, il y a un sentiment d'impunité.
Mais c'est pour ça que le parquet de Paris a ouvert une enquête.
Exactement. Mais franchement, j'attends ça avec vraiment intérêt, et je ne sais pas si on va pouvoir suivre ces prochains jours cette enquête, si des gens vont être d'abord arrêté, pourquoi pas, entendu et pourquoi pas condamné. Mais c'est juste intolérable ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc ça sera évidemment un de nos thèmes majeurs. L'autre thème, exceptionnellement, ce sera le Covid, comme vous le savez.
Non,
si, on va parler du Covid. Quelle année, franchement. Vous n'en avez pas assez, parfois.
J'en peux plus, pour vous dire la vérité.
On est tous pareils, mais là, il y a mutation maintenant. Maintenant, la mutation du virus. Mais vous vous rendez compte, en Angleterre, c'est incroyable quand même. Samedi, à 18h, ils te disent le pays est fermé à minuit et tout le monde doit partir comme ça en 6 heures. Mais si ça s'était passé en France et le pays est bouclé depuis samedi, alors évidemment tu te dis mais enfin comment est-ce possible, ça n'a pas l'air si grave que ça, cette mutation de virus, mais en 6 heures tout est fermé. Donc ça crée même une sorte d'inquiétude. On se dit mais c'est quand même étonnant en 6 heures que tout soit fermé. Donc on pourra en parler bien sûr, comme on pourra parler des cinémas et des théâtres. Je sais pas comment ça vous manque, le cinéma et le théâtre.
Mais énormément.
Ouais, bah oui, ça
mais énormément, voilà. Énormément.
Donc comment vous faites, le Conseil d'État d'ailleurs se penche aujourd'hui sur le sujet, et vous pourrez évidemment, et puis peut-être parler de Noël aussi si vous êtes
alors,
déjà
Noël,
en vacances.
Ah bah alors justement, le pull de Noël, vous allez porter le pull de Noël le 24 décembre.
Mais oui, hein, vous l'avez
voilà.
Déjà vous.
Alors les
non
pas du tout. Je suis vert sapin. Mais bon. Donc,
bien sûr que je vais le porter.
Vous savez qu'on a déjà des colis. Les auditeurs ont commencé à nous envoyer. Si,
ah
on
bon
a commencé à nous envoyer des pulls de Noël pour vous.
Eh bien, je vais emporter, je vous promets.
Jeudi, vous en porterez plusieurs. Alors, il faudra leur faire honneur.
Bien sûr, j'en porterai plusieurs car nous sommes là jeudi. Vous êtes là également jeudi. Eh bien, vous serez avec moi.
Il va falloir surveiller la vidéo. Allez, merci Pascal. La météo, il y a une bonne nouvelle en ce 21 décembre. C'est le solstice d'hiver. Donc, c'est le jour le plus court de l'année. À partir de demain, nous regagnerons donc de précieuses minutes de lumière. En attendant, Dania Defer, peu de jours et beaucoup de grisailles.
Oui, absolument. La perturbation de ce matin continue sa progression vers l'est. Cet après-midi, on la retrouve entre les Pyrénées et les Hauts-de-France, en passant par le Massif central avec des pluies localement soutenues. À l'arrière, entre l'Aquitaine et la Normandie, des pluies seront faibles et intermittentes. Et sur le flanc est, du Languedoc à l'Alsace, les nuages seront nombreux et donneront des ondées. Le tout avec du vent, jusqu'à 80 km/h sur les littoraux, jusqu'à 60 km/h dans les terres. Trois exceptions seulement, le Pays Basque, la Côte d'Azur et la Corse seront épargnés et garderont un temps sec avec de timides éclaircies. Vous parlez, Christelle, de douceur. Oui. Côté Mercure, oui, nous sommes encore au-dessus des moyennes de saison. 8 à Aurillac, 9 à Nancy, 10 à Montauban, 12 à Lyon. Il fera 13 au Havre, 14 à Cherbourg, 15 à Tarbes, 16 à Toulon et jusqu'à 18 à Bastia.
Bon, et demain, c'est la journée la plus douce de la semaine. On en profite.
Et oui, vraiment, vraiment douce, exceptionnellement douce. Les maximales iront jusqu'à 20 degrés à Biarritz. Mais ailleurs, c'est remarquable également. 13 à Montpellier, 15 à Brest et à La Rochelle, 15 à Besançon, il fera 16 à Paris, 15 à Cognac et Bastia, 18 à Toulouse, 19 à Bordeaux et donc jusqu'à 20 sur la Côte Basque. Une France coupée en deux pour demain. Une perturbation active avec de la pluie et du vent au nord de la Seine. Les rafales allant jusqu'à 60 km/h dans les terres et jusqu'à 70 km/h, toujours donc ce vent sur les côtes de la Manche. Sur la moitié sud, le temps est plus sec avec de belles éclaircies des Pyrénées au sud des Alpes et à la Méditerranée. On retrouvera des entrées maritimes dans le golfe du Lion. Profitez bien de cette douceur actuelle. On prévoit une chute du thermomètre pour Noël. On perdra jusqu'à 10 degrés par endroit.
Ça, c'est à partir du 25.
Le pull, oui, on parlait des pulls.
Ah ouais, bah vous en aurez besoin. Attendez,
mais 16 degrés à Paris demain.
Et oui, que voulez-vous de décembre. On va être en retard, mon Pascal.
Il n'y a plus de saison.
Allez, on y va. Il n'y a plus de saison, mon bon monsieur. Il va être 13h.
RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va parler évidemment de ce qui se passe à Londres. Nous sommes avec Adrien qui est chef d'entreprise précisément à Londres. Bonjour Adrien.
Bonjour Pascal.
Comment allez-vous faire ?
Très bonne question. Je suis un peu dans tous mes états. Je suis dans le stress, l'énervement. C'est une catastrophe.
Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça à le rappel des titres avec Christelle.
Emmanuel Macron appelle à la vigilance après ce qu'il appelle une mutation problématique du virus au Royaume-Uni. Cette variante plus contagieuse voit la Grande-Bretagne d'être isolée du monde. De nombreux pays, dont la France, ont suspendu toutes les liaisons, au moins pour 48 heures. L'Europe donne son feu vert à la fusion entre Peugeot Citroën et l'américain Fiat Chrysler. Il formerait le quatrième groupe automobile mondial. Mais les deux entreprises doivent s'engager à préserver la concurrence dans le secteur des petits véhicules utilitaire. Une enquête ouverte par le parquet de Paris après les tweets antisémites qui ont visé samedi soir Miss Provence. April Benayoum avait révélé que son père était d'origine israélienne. Plusieurs milliers de messages avaient été échangés sur les réseaux sociaux. L'enquête est ouverte pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale. Les obsèques de Gérard Houllier ont eu lieu ce matin à Paris à l'église de Passy. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, était présent, ainsi que Jean-Michel Aulas ou encore Rudy Garcia. Gérard Houllier avait entraîné Lyon, mais aussi le PSG ou encore Liverpool. Et l'hymne officiel de Liverpool a d'ailleurs été interprété a cappella dans l'église. L'année sportive, vous le savez, a été fortement perturbée par la pandémie. Championnat arrêté, JO reporté. Les athlètes de haut niveau ont dû s'adapter. Eh bien, nous vous proposons à chaque jour pour ces fêtes de fin d'année 12 rencontres avec les plus grands champions français pour revenir sur cette année si particulière. Aujourd'hui, la star du handball tricolore Nicolas Karabatic, double champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe avec l'équipe de France. Il se confie au micro d'Isabelle Langer.
Bonjour Nicolas Karabatic.
Bonjour.
Cette année 2020 a été spéciale, il y a eu le report des Jeux et puis il y a eu votre blessure. À titre personnel, elle a été compliquée quand même.
Oui, quand on ajoute la crise sanitaire, les deux confinements et maintenant pour moi ma plus grosse blessure depuis le début de ma carrière avec cette rupture de mon ligament croisé sur mon genou droit. Donc ça fait une année chargée, même si j'essaie toujours de me mettre dans la peau de ceux pour qui c'est plus compliqué que moi. Mais bon oui, j'espère que en 2021, ce sera un peu mieux.
Comment vous avez vécu justement cette pandémie ?
Je l'ai vécu, je pense, un petit peu comme tout le monde. Au début, un peu sonné, un peu incrédule. Je pense qu'on avait personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Et on a appris à vivre avec cette pandémie, avec le virus. Et on essaie de composer avec. Je ne sais pas si on arrivera à éradiquer ce virus, mais qu'on apprendra à vivre avec, à mieux le gérer, et à mieux s'adapter pour les années à venir.
Pour vous, il y a une leçon à tirer de cette pandémie qui est arrivée ? On sait que vous êtes très écologiste.
Malheureusement, je pense que c'est qu'un début. On va pas sortir de cette crise et tout va redevenir comme avant. Ce serait une erreur. Il faut aller de l'avant et je pense que les prochaines crises à venir vont être climatiques et vont être encore pires parce qu'elles vont peut-être se cumuler à des crises sanitaires, à différents virus. Donc, je pense pas qu'on aille vers le mieux si on s'adapte pas et si on n'évolue pas, sinon si cette société évolue pas. Et donc, j'espère que les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent tous les pays en Europe, dans le monde, vont enfin se mettre d'accord et que les objectifs pour le climat aussi vont être tenus et qu'on va pouvoir maîtriser un jour le réchauffement climatique.
Pour vous, il faut plus préserver la planète, encore plus qu'avant.
Le réchauffement climatique, c'est quelque chose de tangible, qui est vrai, qui nous guette et que tôt ou tard, si on n'adapte pas nos modes de vie, nos modes de consommation, nos sociétés, eh ben, c'est la catastrophe pour toute notre espèce. Et ça, je pense que c'est intégré. Maintenant, il faut prendre les mesures. On a en France, on a fait une concertation citoyenne avec beaucoup de mesures qui ont été proposées. J'espère qu'elles vont être suivies. Il faut vraiment qu'on joue collectif. De toute façon, si on ne s'adapte pas, si l'environnement ne devient pas notre priorité, l'environnement et en même temps prendre soin de ceux qui sont les plus démunis, ben on court vers la catastrophe en tout cas.
Il Les fêtes de Noël approchent, ça va être en famille, comment ça va se passer?
Oui, et en plus pour mon club, elles sont spéciales parce qu'on a le Final Four de la Ligue des Champions qui se joue à Cologne, et on part le 26-27 jusqu'au 29-30, et donc on va passer des fêtes en famille, je vais passer les fêtes avec mon frère, ma mère qui revient de Serbie, et les enfants bien sûr, et nos compagnes, mais il faut qu'on fasse attention parce que si Luca est positif ou moins, ben, bon moi c'est un peu moins grave parce que je pourrais pas jouer, mais je peux peut-être le transmettre aux autres joueurs que je côtoie tous les jours, et Luca, ben, s'il est positif, il peut rater cette compétition, ce Final Four qui est très très important, et derrière le Mondial aussi, ça peut tronquer sa préparation, donc on va faire très très attention.
2021, c'est quoi les objectifs?
Moi, mes objectifs perso, c'est de revenir de ma blessure en forme, et j'espère de pouvoir participer peut-être à la fin de saison avec le club, et après j'espère que l'équipe de France se qualifiera pour les Jeux Olympiques, et derrière être en forme pour la prépa et pour pouvoir tenir mon rang et être sélectionné pour les Jeux. Donc ça, c'est mes gros objectifs.
Nicolas Karabatic avec Isabelle Langer, une chronique à retrouver sur notre site rtl.fr.
Et Adrien patiente encore, mais...